السلام عليكم، bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, on rappelle aussi l'importance de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. Il n'y a pas de récompense sans la bonne intention. Donc nous avions vu la fois précédente des règles très importantes sur l'interprétation du Coran et du Hadith qui sont unanimes chez les savants sunnites. Donc pour être resté sur la voie sunnite, il faut suivre ces règles-là, à savoir ce qui est cité dans le Coran, qui est des versets explicites, qui ont un seul sens du point de vue de la langue arabe, et des versets non explicites qui admettent du point de vue de la langue plusieurs sens, mais ne sont retenus que les sens qui sont corrects, qui sont conformes aux autres versets explicites, qui sont la base du livre, conformément aux versets qu'on a cités, et bien sûr qui des sens qui sont dignes de Dieu, qui correspondent au contexte cité du verset. Donc on a vu les détails, beaucoup de détails, des exemples, notamment sur le verset Ar-Rahman al-Arsh istawa, qui veut dire istawa veut dire que Dieu domine le trône, préserve, maintient en existence, et il n'est pas permis de dire que Dieu s'assoit ou s'établit, comme font des gens ignorants qui traduisent mal ou des sectes égarées qui ont la croyance donc de l'anthropomorphisme, qui assimile Dieu aux créatures, qui attribuent à Dieu le corps, la quantité. Et le Coran nous a mis en garde contre ces gens-là qui ont une mauvaise croyance dans le cœur, qui vont donner des sens qui sont pas corrects ou versés afin d'égarer les gens. Et le prophète, il a mis en garde contre ces gens-là. Donc on a vu cela. Et on a vu après les versets, on a cité des hadiths non explicites que les sectes aussi utilisent pour propager leurs mauvaises croyances, mais on a montré donc la vraie explication et les détails au sujet de ces hadiths-là, notamment le hadith connu sous le nom de hadith al-Jariya, donc le hadith de la femme esclave. Donc on a vu comment Nawawi il a expliqué avec le scan de son livre et comment il rapporte la parole de Qadi Iyad, qu'il y a unanimité chez les savants de l'islam que les textes, que ce soit versets ou hadith ou les cités, donc un terme qui a un sens apparent qui laisserait croire que Dieu serait localisé, et ces textes-là sont nécessairement interprétés par un sens digne de Dieu selon l'unanimité. Et il a expliqué le hadith de Al-Jariya que le ne comporte pas l'attribution de l'endroit à Dieu, mais donc la question citée dans ce hadith-là veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu. Et quand elle a indiqué le ciel, ou elle a employé l'expression fis sama, veut dire que l'imminence de Dieu. Il ne veut pas dire la localisation au sujet de Dieu. Donc ça c'est unanime, et bien évidemment il n'y a aucune excuse pour qui contredit la raison saine et les versets explicites qui montrent clairement que Dieu n'est pas localisé, quantifié, c'est une impossibilité rationnelle que le Créateur soit localisé ou quantifié, car celui qui est ainsi c'est une créature et c'est la croyance des autres religions. Et qu'est-ce qui fait que l'islam est la seule vraie religion? Que l'islam est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de quantité ni de localisation, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc c'est la seule croyance conforme à la raison. Donc attribuer à Dieu la localisation, c'est un blasphème dans tous les cas. Même si la personne ne connaît pas ces détails-là, car ça contredit clairement la raison saine, et on est jugé à partir du moment qu'on a la raison. Donc celui qui a la raison, qui est pubère et saint d'esprit, donc celui-là, et qui a entendu la base de l'appel à l'islam, s'il croit au sujet de Dieu, la quantité, il attribue à Dieu l'espace, le temps, même s'il récitait le Coran, même s'il habitait à la Mecque, s'il meurt sur cela, c'est l'enfer pour l'éternité. Car on n'a pas le droit de contredire la raison saine. À partir du moment qu'on a la raison saine, on est jugé dans le delà. Donc ça, c'est des détails pour bien comprendre ces sujets-là et montrer comment c'est quelque chose qui est enseigné dans les pays musulmans. Mais sans ces détails-là, la personne n'a pas d'excuse à partir du moment si elle a attribué à Dieu la forme, la quantité, la localisation. Donc on a vu, il faut réviser, donc on a vu les détails là, et on a montré des explications plus poussées que, en réalité, la science du hadith, elle est vaste. C'est pas une simple personne qui lit des livres toute seule et qui va attribuer à Dieu donc la croyance, donc qui n'est pas donc elle va attribuer à Dieu ce qui n'est pas de lui en interprétant selon ses passions. Non, il y a des règles dans l'interprétation, dans la science du hadith. Donc ce hadith-là, on a vu, il est rapporté par plusieurs versions. Et donc la version où, parce qu'il y a un hadith mutawatir, on l'a montré, qui montre clairement qu'on juge quelqu'un croyant par le fait qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu. Et justement, il y a une version rapportée par l'imam Malik, donc qui est plus fort dans le hadith que l'imam Muslim, du fait qu'il est plus proche dans le temps que du prophète. Et dans cette version-là, il est cité Atashhadina an la ilaha illallah, témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah? Elle dit oui. Témoignes-tu que je suis le messager de Allah? Elle dit oui. Et là, c'est conforme et c'est valable d'ailleurs de quelqu'un, si on lui dit ainsi et qu'il dise oui, il réponde par l'affirmatif. Donc à ces questions, c'est valable sans entrer en islam. Témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah? Témoignes-tu que Muhammad est le messager de Allah? Donc dans cette version, il est cité ce qui est conforme aux règles de base de la religion. Qu'elle est jugée croyante, cette femme-là, par le fait qu'elle témoigne, qu'elle confirme le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc cette version, donc, elle est prioritaire donc sur la version où il citait le terme Aïna, au sujet de Dieu. Donc ça c'est pour le détail, mais dans tous les cas, les savants, on a vu, qui ont confirmé l'autre version, comme Razi et Nawawi, ils ont dit Aïna ici, au sujet de Dieu, ne veut pas dire où est Dieu, mais veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu. Et ça existe dans la langue arabe. On utilise le mot Aïna pour dire pour demander le degré, et c'est pas l'endroit. Donc pour demander l'imminence, l'importance. Donc ici, quelle est ta croyance sur de Dieu? Et fissama, c'est utilisé chez les Arabes pour dire l'élévation on mérite. Donc ceux qui ont confirmé cette version, ils ont interprété quand même, comme on a vu Nawawi. Mais les gens authentificateurs qui vont loin dans l'analyse minutieuse, ils ont dit ce hadith, cette version-là ne peut pas être confirmée parce que c'est contraire aux bases qu'on confirme quelqu'un qui est musulman. C'est pas en disant Allah fait sa main, bien que c'est interprété donc par ces savants qui confirment cette version. Mais donc les détails précis montrent que ce n'est pas une version confirmée, mais la version avec témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah? Et témoignes-tu que le prophète il dit, témoignes-tu que je suis le messager de Allah? Cette version, elle est conforme à la, donc aux bases. Donc c'est cette version qui est retenue en fait. Et donc, et on a vu aussi concernant le verset « A'amintum man fis samaa » Man ici, ils ont dit les savants, ça désigne les anges que Dieu envoie pour punir certains peuples. Et il y a un hadith « Irhamu ahl al-ard yirhamukum ahlus samaa » C'est-à-dire, soyez miséricordieux avec les gens de la terre, les gens des cieux, les habitants des cieux seront miséricordieux avec vous. Et ça explique l'autre version du hadith, irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, ceux qui sont dans les cieux seront alors miséricordieux avec vous. Car les anges, bah, ils font des du'as, ils donc pour les croyants. Donc spécifiquement, et ils apportent des bienfaits par la volonté de Allah. Donc voilà, on est arrivé ici. Donc on est arrivé ici. Donc la règle est que tout verset non explicite qui serait pris selon le jugement, le sens apparent. Donc la règle est que tout verset non explicite qui serait pris selon le sens apparent impliquerait des contradictions dans le Coran, alors le Coran en est absolument exempt. C'est-à-dire, il faut l'interpréter. Si ces versets étaient interprétés selon le sens apparent, ils contrediraient d'autres versets non explicites dont le sens apparent donne l'illusion que Allah serait dans la direction de la terre. Ça veut dire ici, si on n'interprète pas comme il faut et on prend tout au sens apparent, ça mènerait forcément au final à des contradictions. Donc ça mènerait à des contradictions. Et donc c'est pour cela il faut nécessairement interpréter par un sens digne de Dieu dans les différents versets pour ne pas aboutir à une contradiction. Par exemple, il y a le verset dans sourate Al-Baqarah وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Donc ce verset-là, il faut l'interpréter. Donc le vrai sens, c'est, il signifie à Allah appartient les Orients et les Occidents. Où que vous vous orientiez, il y a une qibla, direction agréée par Allah pour la prière surrogatoire d'un voyageur sur une monture. Ainsi, le mot wajh ici désigne la qibla agréée par Allah. Il ne veut pas dire visage. Donc c'est l'interprétation, comme on va voir, de Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas. Donc voilà le vrai sens de ce verset. Wajhullah ici, c'est la qibla. Et bien sûr, ici, ça parle des prières surrogatoires. Quelqu'un qui est sur une monture, avant, il voyageait sur la monture, il pouvait commencer takbir sur la direction de la Qibla, après, n'importe quelle direction, il continue la prière sur sa monture pour faire des prières surrogatoires. Mais la prière obligatoire, bien sûr, donc c'est la meilleure chose après la foi. Et ça, beaucoup de gens me posent la question, prière obligatoire, on ne peut pas faire dans une voiture ou... donc assis comme ça, sauf si on est malade, qu'on a une difficulté insupportable de se mettre debout. Mais juste parce que on a peur ou juste on a une simple crainte, ce n'est pas une excuse en fait. La prière obligatoire, elle est nécessaire, doit être faite debout. Donc ça, on y reviendra dans, quand on parlera de la prière, Inch'Allah. Donc c'est important, la prière, j'en parle parce que on la fait tous les jours à vie. Donc il faut être debout en direction de la Qibla jusqu'à la fin de la prière. Et bien sûr, ça nécessite une crainte de Dieu pour bien l'accomplir et trouver toujours, toujours s'organiser de manière à ne pas la rater et trouver les moyens pour la faire. Donc c'est facile. C'est Dieu nous a accordé le fait d'exister, de respirer, de voir, etc., des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Donc on doit le remercier en sachant qu'il n'a pas besoin de nous, il n'a besoin de rien. Donc ici, ça parle bien, parce qu'il y en a, ils ont pris ce verset aussi. Donc il y en a malheureusement pour donner une mauvaise croyance. Certains, ils l'ont pris, ceux, ils ont la bonne croyance, mais ils l'ont pris pour faire la prière n'importe où. C'est-à-dire n'importe comment, sans que ce soit valable. Tu les vois assis donc sur une chaise dans n'importe quelle direction et soi-disant il fait dans le train ou n'importe où et il fait soi-disant la prière. Donc c'est pas valable. Le prophète il a dit va faire la prière, tu n'as pas fait la prière à quelqu'un. Trois fois. C'est-à-dire la bonne intention ne suffit pas parce que beaucoup shaitan leur dit ok, tu as l'intention de faire bien. Le prophète il dit trois fois va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Donc la prière, elle a des conditions. Et Inch'Allah, on fera la prononciation. Donc on va en parler après. Donc on va faire le cours de la prononciation, etc., qui est important pour bien réciter la Fatiha. Et comme on parle ici des règles de la langue arabe, on parlera aussi de la langue arabe. Donc voilà, par exemple, le mot wajh, il a plusieurs sens. Dans la langue arabe, c'est comme ça. Comme le mot aïn. Dans la langue arabe. Comme on dit en arabe, li wajhillah, ça veut dire par recherche de l'agrément de Dieu. Ici, le wajhullah, ça désigne la qibla agréée par Dieu. C'est employé aussi wajh pour l'obéissance à Dieu. Et donc, si, alors, on prend le sens apparent de certains versets, et donc comme ils font eux, ils attribuent à Dieu l'habitation du ciel, et s'ils prennent s'ils suivent leurs règles, fausses règles, de prendre tout au sens apparent, ils vont se contredire. Parce qu'ils vont dire, pour un verset, ils vont dire que Dieu habite le ciel, dans ce verset-là, par exemple, ils vont dire que Dieu est allé à l'Orient et à l'Occident, ou dans ce verset-là, وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين سورة الصافات. Donc Sayyidina Ibrahim, dans ce verset, relate l'histoire du prophète, donc du prophète Ibrahim. Donc il y a une correction ici. Donc du prophète Ibrahim. Donc, qui se dirigeait en fait il se dirigeait vers donc la Palestine. Donc, il se dirigeait vers la Palestine. Donc, si on prend au sens apparent, et donc ça va donner, si on prend au premier sens selon leurs règles, ils vont se contredire, ils vont attribuer à Dieu le fait d'habiter la Palestine. Donc lorsqu'il a quitté alors c'est Abraham son peuple qui avait refusé de lui obéir, il n'avait pas accepté d'abandonner l'adoration des idoles. Donc il a dit Inni dhahibun ila Rabbi, c'est-à-dire vers l'endroit que Allah m'a facilité, m'a ordonné, à savoir la Palestine, où je pourrais adorer Allah en paix. Ainsi, ce verset ne veut pas dire que Allah se trouverait en Palestine. Mais si on prend au premier sens, au premier degré, là, ça donnerait donc des contradictions. Donc voilà d'où l'importance de suivre donc les règles d'interprétation. Que ce qui n'est pas explicite, il faut lui donner un sens correct. Ainsi, pour le verset فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, nous disons فَثَمَّ قِبْلَةُ اللَّهِ, comme l'a dit l'un des savants du salaf. C'est vraiment le savant du salaf, pas les extrémistes qui sont appelés salafites. Ça, c'est les vrais savants du salaf dans les trois premiers siècles de l'Égypte. Donc Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah les agrée tous les deux, il a dit, Wajhullah signifie donc la qibla que Dieu agrée pour votre prière surrogatoire lorsque vous êtes en voyage sur une monture. Quant au verset Waqala inni dhahibun ila rabbi, il signifie je vais là où je peux adorer Allah sans subir de mal. Car le peuple d'Ibrahim avait essayé de le tuer en le projetant dans le feu. Il en était ressorti sain et sauf. C'était le miracle connu de Saïdina Ibrahim. Mais cela ne les a pas convaincus. Ils avaient refusé de le suivre dans l'islam. Donc pour ne pas aboutir à une contradiction, dans le Coran, il n'y a pas d'autre choix que de donner un autre sens que le sens apparent à tous les versets non explicites, dont le sens apparent fait croire que Allah serait localisé dans une direction. Il est obligatoire de ne pas les prendre dans leur sens apparent. Ils doivent être interprétés par un sens digne de Allah. Voilà ce que les savants de Ahl-Sunna ont dit. On l'interprète sans comment, ni forme, ni endroit, en disant on interprète conformément à ce qui est digne d'être attribué à Allah. Donc on a vu ceux qui interprètent de manière globale, mais en disant que c'est un sens digne de Dieu, et ceux qui détaillent selon le besoin, s'il y a beaucoup d'égarés, beaucoup de sectes, ils vont détailler pour vraiment, c'est-à-dire protéger les gens de tomber dans les mises en doute et les égarements des sectes. Et c'est pour cela que les gens, après les trois premiers siècles, les gens ils ont plus détaillé, parce qu'il y a eu beaucoup de gens égarés qui veulent semer les mauvaises croyances. Donc, comme on l'a vu, Ar-Rahman al-Arsh istawa veut dire dominer, préserver, maintenir une existence, comme ont dit les savants sunnites tels que Al-Bayhaqi et d'autres. Il faut exempter Allah de la localisation et de la quantité. Donc cette répétition, elle est importante, comme ça la personne, elle retient, en répétant, elle peut sortir les détails au besoin, parce que de nos jours, les gens, voilà, ils regardent dans Internet, les applications, n'importe quoi qu'on leur met, ils prennent sans vérification. Donc on peut être confronté à des situations comme ça. On montre aux gens que les traductions, c'est pas une révélation. C'est des gens qui ont écrit, donc il faut vérifier est-ce que c'est correct ou non. Et la règle, c'est qu'on prend par transmission orale auprès des gens de confiance. Donc voilà pour ce détail-là. Donc, en espérant que ça soit clair. Donc, après, il y a d'autres aussi, hadiths, qui montrent que si on les prend dans le sens apparent, ces gens-là, ces extrémistes, ils suivent leurs règles, ils prennent tout au sens apparent, ils vont croire que Dieu est dans notre cou ou à côté du cou de sa monture, ou des choses comme ça, ou entre la personne et la qibla. Donc tous ces hadiths-là, on peut pas les prendre dans le sens apparent, sinon ça mène à des contradictions. Donc on voit que même ces hadiths qu'on va citer, ils ont une chaîne de transmission plus forte que le hadith hadith al-Jariya de la femme esclave. Donc ici, c'est une réplique en plus. Que voilà, il y a des hadiths qui sont plus forts, et que si on prend au sens apparent, ça donne une autre croyance que votre croyance. Et donc ça veut dire, dans tous les cas alors, il faut interpréter pour ne pas attribuer à Dieu l'espace, le temps, la quantité. Donc Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « إذا كان أحدكم في صلاته فإنه ينادي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته » Ce qui signifie, lorsque l'un d'entre vous est dans la prière, il est en train d'implorer et d'adorer son Seigneur, qui ne crache pas devant lui ni à sa droite, car la miséricorde de son Seigneur est entre lui et la Qibla. Donc ici, si on prend le sens apparent, ça donnerait que Dieu serait entre lui et la Qibla. Mais ce hadith ne veut pas dire qu'Allah se trouverait entre celui qui prie et la Qibla. Or, ce hadith a une chaîne de transmission plus forte que le hadith de Al-Jariya. Donc il y a un hadith plus fort, mais si on prend au sens apparent, ça donne une croyance contraire à leur croyance, parce qu'ils croient que Dieu habite dans le ciel, comme les autres religions. Donc c'est pas des musulmans ceux qui croient ça. Donc voilà comment on leur réplique. Donc des gens, ces gens-là, donc c'est des répliques en plus, mais des gens, déjà ces gens-là, ils s'arrêtent juste au fait qu'on leur dit qui a créé le ciel. Quelques mois après ça, ils s'arrêtent. Qui a créé le ciel? Ils sont obligés de dire c'est Dieu. Dieu existe avant le ciel, sans le ciel. Qui a créé le trône? Dieu. Dieu existe avant le trône, sans le trône. Donc Al-Bukhari a également rapporté de Abu Musa al-Ash'ari que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc déjà on a dit, il signifie que le musulman qui s'adonne à l'adoration de son Seigneur pendant sa prière, qui ne crache pas en direction de la Qibla ni à sa droite, car la miséricorde de son Seigneur se trouve entre lui et la Qibla. Il y a une certaine baraka, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc il y a des choses donc spécifiques dans ces cas-là. Donc dans la direction de la Qibla et à sa droite. Donc il ne crache pas par bon comportement. Donc Al-Bukhari a également rapporté de Abu Musa al-Ash'ari que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. Donc ce hadith signifie: épargnez-vous et ne vous efforcez pas d'élever beaucoup la voix dans vos takbirs et vos évocations, car rien n'échappe à l'ouïe, à la vue, à la science de Allah Azzawajal, et il sait absolument tout de vous. Donc ici, il y a l'expression وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَحِلَةِ أَحَدِكُمْ. Donc il ne veut pas dire que Dieu est plus proche de vous que le cou de votre monture dans le sens physique. Donc si on prend ici, ils prennent ce sens sans interprétation, le sens apparent, donc il va contredire la croyance. Ça va contredire leur croyance. Donc leur croyance, elle est quelque chose de fausse, qui n'est pas conforme aux preuves ni à la raison. Donc il est celui qui sait tout de vous, c'est ça le sens, qui entend tout et qui exauce ce qu'il veut à qui il veut. Il n'est donc pas question ici d'une proximité physique, comme le cou de votre monture se rapproche de l'un d'entre vous, mais du fait que Allah sait tout de vous en tout instant et où que vous soyez. Donc c'est ça le sens. Ainsi, ce hadith ne signifie pas que Allah serait plus proche de la personne par la distance que le cou de sa propre monture. Donc voilà le sens. En résumé, celui à qui Allah a accordé la bonne compréhension et qui l'a guidé vers la vérité aura su que l'islam est la religion de l'exemption de Allah de toute ressemblance avec les créatures. Voilà la religion de l'islam, voilà la croyance de l'islam, la croyance de tous les prophètes. Et que Allah existe sans comment et sans endroit et sans direction. La louange est à Allah, le créateur du monde. Cette explication est destinée à montrer que les assimilationnistes, les mushabbiha, n'ont aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans le Hadith, que Allah serait dans le ciel ou au-dessus du ciel. En effet, la croyance de tous les musulmans est qu'Allah existe sans endroit et sans comment. Comme on l'a dit, il a créé les ciels, la terre. Il existe avant les créatures. Attribuer à Dieu une localisation, c'est du shirk. C'est adorer une créature, ce n'est pas adorer le créateur. Allah Ta'ala dit: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ce qui signifie: dit, sont-ils équivalents ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas? Donc c'est avec la connaissance qu'on connaît ça. C'est pas en lisant à droite, à gauche, en passant des nuits sur Google et YouTube. C'est pas comme ça. Beaucoup ils finissent égarés, extrémistes, comme ça. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Quérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman. Donc ici, bien sûr, acquérir la science, ils l'ont expliqué, les savants. Ça veut dire acquérir la science de la religion, donc qui fait partie du minimum obligatoire. Donc acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman. Parce que dans la science, il y a la science d'ordre communautaire, obligation, comme d'être savant du hadith, ou réciter, savoir réciter tout le Coran, ou l'interprétation du Coran, ou la science du fiqh en détail, ou la langue arabe. Donc ça, c'est une obligation d'ordre communautaire. Et aussi la médecine, donc la médecine ancienne, donc l'architecture, etc. Ce que les musulmans, ils ont besoin. Menuiserie, etc. Ça, c'est s'appelle obligation d'ordre communautaire. Mais c'est pas une obligation sur tout musulman. Donc, ils ont dit, les savants, vu que le prophète dit c'est une obligation, cette science, donc forcément, ça vise une science spéciale. C'est pas toutes les sciences. Sinon, ce serait difficile que quelqu'un maîtrise, chacun doit maîtriser toutes les sciences. Non. La religion, elle est facile. Donc, ce qui est visé ici, c'est la science du minimum indispensable de la croyance pour connaître ce qui est digne de Dieu, les attributs des prophètes, comment préserver son islam, la prière, comment prier correctement, comment réciter correctement la fatiha. Ça, c'est obligation d'ordre personnel. Les péchés des mains, des yeux, etc., pour les éviter, le repentir. La zakat, si on a ce qu'il faut pour que ça soit obligatoire. Le pèlerinage, si on a les moyens pour le faire. Donc c'est ça qui est visé par la science donc obligatoire. Donc c'est pas toute science en fait qui serait obligatoire d'ordre personnel. Donc alors donc on va citer aussi un des savants, parce que là il y a un scan. Donc pour avoir une culture musulmane, donc sinon, comme on l'a dit, attribuer à Dieu la forme, la quantité, c'est un blasphème dans tous les cas. Alors parmi les savants, il y a Ibn Muallim al-Qurashi, rapporte la déclaration de mécréance de celui qui fait ressembler Dieu aux créatures. Donc ça, c'est le scan, le manuscrit, il est conservé donc à Paris, donc il est conservé à Paris. En fait, parce qu'ils ont après la colonisation, ils ont pris pas mal de livres des musulmans, comme Boumadien aussi, c'est conservé à Paris. Pareil, on a vu, donc on a pu faire des copies où il parle de la croyance, hein, le grand savant, donc à Tlemcen. Et il y a Abou Alam al-Qurashi, voilà, même le tampon ici. Il est marqué « Discours et sentences des principaux juges et anciens ayant parlé, expliqué la foi de Muhammad avec leur nom. » Voilà, c'est conservé donc à Paris. Donc la colonisation, ils ont arrêté l'enseignement, mais voilà, on les trouve conservés à Paris. Alors qu'il y a des gens, comme il a dit MBS, on a propagé le wahhabisme à la demande des occidentaux. Donc ça, vous pouvez le trouver. Donc alors, Ibn Muallim al-Qurashi est né en 660 de l'Hégire et mort en 725 à Damas. Sa biographie a été faite par Ibn al-Hajar al-Asqalani dans son livre Ad-Durar al-Kamina fi A'yan al-Mi'at al-Thamina. C'est-à-dire les perles cachées pour parler des gens éminents du 8e siècle de l'Égypte. Donc il a fait sa biographie en tome 4, page 197. Donc alors là, c'est l'écriture, donc le manuscrit ici. et la transcription elle est là. Ibn Mu'allim al-Qurashi dit dans son livre Najm al-Muhtadi, donc c'est Najm al-Muhtadi, en fait c'est l'étoile de celui qui est bien guidé. Donc Najm al-Muhtadi, le livre s'appelle Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi, l'étoile de celui qui est bien guidé. Donc ça donne en fait des preuves pour celui qui est guidé, et il dit Rajm al-Mu'tadi, la lapidation de celui qui est de l'ennemi, c'est-à-dire des répliques en fait, des répliques aux égarés. Najm al-Mu'tadi wa Rajm al-Mu'tadi, il dit quoi en page 551? Donc ça on l'a pris donc et on l'a copié, elle est conservée en France. Il dit وهذا منتظم من كفره مجمع عليه ومن كفرناه من أهل القبلة كالقائلين بخلق القرآن وبأنه لا يعلم المعدومات قبل وجودها ومن لا يؤمن بالقدر وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش كما حكاه القاضي حسين عن نص الشافعي. Il dit ce qui signifie ceci, la mécréance est de la mécréance selon l'unanimité. Donc ces exemples-là qu'il cite en fait dans la suite. Et nous déclarons non-croyants, mécréants, ceux qui se réclament de l'islam, qui disent que la parole de Dieu est créée. Car on a vu dans les cours précédents, la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, ce n'est pas une langue arabe, ni une autre langue. Et ce qui est cité dans les versets, les termes révélés, on appelle ça la parole de Dieu dans le sens que c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu, et l'attribut de parole de Dieu n'est pas créé. Comme on marque Allah sur une feuille, les mots qu'on a écrits sont créés, mais c'est pas Allah lui-même les termes qu'on a écrits, mais c'est une expression qui désigne le créateur. Donc c'est des détails très importants. La religion, c'est important, cette connaissance. C'est facile, mais c'est important. Donc de prendre le cours si on ne l'a pas pris, donc écouter les cours précédents, réviser, c'est important. Donc c'est bien comprendre la religion. C'est pas, je passe une soirée YouTube, n'importe quoi qui me propose. Non, on finit égaré. Donc ça, c'est la réalité. Celui qui passe des soirées YouTube comme ça, ou internet pour apprendre la religion comme ça, il finit égaré. Donc il a dit ceux qui disent que la parole de Dieu est créée, ceux qui disent que Dieu ne sait pas les choses avant leur existence, et ça il y a des gens malheureusement qui croient ça, et ça c'est une mécréance. Dieu sait toutes choses avant qu'on arrive. Dieu sait qu'il y aura les téléphones, c'est lui qui crée tout. Chaque instant est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Donc chaque instant est créé et voulu par Dieu. Et celui qui ne croit pas en la prédestination, bien sûr. Donc ça rejoint ce qu'on a dit. Tout est prédestiné et voulu. Dieu a prédestiné. Il ne dépend pas du temps. Avant que le monde existe. On dit maktoub, c'est-à-dire c'est écrit dans la table préservée. Mais avant que le monde existe, Dieu il sait qu'aujourd'hui on va faire ça, combien de pas on va faire, etc., etc. Il sait tout, Dieu. Et il a dit, celui qui croit que Dieu est assis sur le trône, tout comme a rapporté ce jugement le juge Al-Qadi Hussein, d'après le texte de Al-Shafi. C'est-à-dire, il dit que Qadi Hussein, il rapporte de l'imam Shafi, le grand savant, que celui qui dit que Dieu est assis sur le trône est de la mécréance. Donc, c'est des détails en plus, bien sûr. Mais sans ça, quelqu'un qui croit que Dieu est assis sur le trône, c'est un mécréant. C'est pas un musulman. Celui qui est assis, c'est forcément une créature. Donc, le Qadi Hussein fait partie des grands compagnons de l'imam Al-Shafi'i. L'imam Abdul Karim Al-Rafi'i a dit, on le surnommait le savant de la communauté. Voilà, un autre passage, manuscrit aussi. Alors, avec la transcription, Ibn Mu'allim al-Qurashi dit dans son livre Najm al-Muhtadi. Donc là aussi il y a une prolongation, Najm al-Muhtadi. l'étoile de celui qui est, comme on a dit. Alors, il dit, وعن علي رضي الله عنه سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا؟ أبي الإحداث أم بالإنكار؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. Alors il dit, l'imam Ali, que Allah l'agré, a dit, à l'approche du jour dernier, il y aura des gens qui vont devenir non-croyants. Un homme a dit, ô émir des croyants, leur mécréance à cause du fait qu'ils innovent une chose contraire à la religion ou en reniant une croyance de l'islam. Il a dit, en reniant, ils renient leur créateur, ils lui attribuent le corps et les membres. Ils sont non-croyants car ils assimilent Dieu aux créatures. Donc vous voyez, ça revient à renier Dieu, comme il dit l'imam Ali. Parce que c'est le fait d'adorer une forme ou un vieillard qui habiterait le ciel, qui a des mains, des yeux, des pieds, qui monte et descend tout le temps, et qui s'agrandit, rétrécit pour rentrer dans le ciel, et puis et s'agrandit pour être sur le trône, qui a des mains droites, etc. Donc c'est une créature en fait. Ils adorent une créature, ça veut dire ils ne reconnaissent pas le créateur, l'existence d'un être qui est le créateur du monde, qui n'a pas de ressemblance aux créatures. Donc c'est ça, ça revient à renier Dieu au final. Et comme il a dit l'imam Abu Bakr al-Siddiq, que Allah l'agré, reconnaître son incapacité à atteindre la réalité du Dieu est une connaissance. La foi, c'est que tu reconnais qu'il y a un être que tu ne peux pas atteindre, qu'il est le créateur du monde. C'est ça la foi. Qu'il a les attributs de perfection, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il entend, qu'il voit, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair, qu'il n'a besoin de rien, qu'il sait toute chose. C'est ça la foi. Qu'il fait ce qu'il veut, qu'il n'a besoin de rien. Mais tu ne peux pas atteindre sa réalité. Allah Ta'ala dit, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Il ne cerne pas sa réalité. Donc les créatures ne cernent pas la réalité de Dieu. Donc, voilà, donc, et il a dit reconnaître, c'est ça la foi. Et il a dit le même chef, la même chose aussi. Et c'est la croyance de tous les musulmans. Et on a vu l'autre fois, je disais que le livre que j'avais enseigné à école primaire en Tunisie, il y a une cinquantaine d'années, ils enseignaient aux enfants connaître Dieu, c'est connaître les attributs de perfection dignes de lui. L'exempter de l'imperfection, des attributs d'imperfection tels que l'espace, le temps, la quantité, le besoin, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. C'est pas, Dieu n'est pas obligé de nous accorder des mains ou des yeux ou d'exister, qu'il nous accorde la guider. Donc il accorde par sa grâce, il prive par sa justice, il fait ce qu'il veut. Donc vous voyez, donc cet héritage sunnite, que malheureusement ils l'ont fermé pour que les gens ils apprennent pas. Et d'ailleurs on voit que ils ont pris même les livres qu'on trouve ici. Voilà, c'est marqué Kitab Najm al-Muhtadi. Vous voyez le manuscrit Kitab Najm al-Muhtadi wa Najm al-Mu'tadi, c'est écrit ici bi khatti mu'allifihi rahimahullah. Donc c'est marqué livre Najm al-Muhtadi l'étoile de celui qui est bien guidé et la lapidation de l'ennemi, avec l'écriture de son auteur. Que Allah lui fasse miséricorde. C'est marqué Ibn Mu'allam al-Qurashi. Donc on l'a vu le manuscrit, il est conservé ici, c'est de là qu'on a pris donc directement. Donc on l'a pas pris sur internet, on l'a pris directement en fait. Najm al-Muhtadi. Najm al-Muhtadi. ورجم المعتدي ابن المعلم القرشي. Donc voilà, et avec un tampon en français en fait. Il y avait un tampon. Le tampon en fait, il était à la verticale en fait. C'est moi là, je l'ai tourné pour que ce soit lisible. expliquer la foi. Et la foi, c'est écrit en l'ancien français même, avec Y. Donc voilà. Donc voilà, c'est de la culture musulmane. Donc ce qui était enseigné dans les pays musulmans. Donc pour que ce soit vraiment clair. Et que la personne a la culture musulmane traditionnelle sunnite. Donc j'espère que c'est clair. Donc après, donc on verra d'autres détails importants sur donc on reviendra, donc ça permet de réviser. Donc n'oubliez pas, donc je dis de regarder l'article sur les points de prononciation des lettres arabes et des règles de tajwid. Pas on compte inchallah commencer un cours de prononciation de langue arabe pour faciliter aux gens justement en fait c'est pour aider les gens qui apprennent correctement la religion à se renforcer dans la langue arabe. Et c'est quelque chose de bien sûr, c'est une obligation d'ordre communautaire, et avec la bonne intention ça fait gagner de hasanet. Donc je poserai après la question, donc quand est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on fait en deuxième cours le dimanche? Donc vous pouvez proposer dans les commentaires ou un autre jour, donc ou en deuxième cours, comme ça c'est le même jour après ce cours là mais il est important bien sûr de revoir ces règles là sur la croyance, de bien les comprendre. Donc comme on l'a dit, certains des versets du Coran, les versets non explicites, peuvent admettre du point de vue de la langue plusieurs sens. Ceux pour qui Allah a voulu la bonne guidée, il leur accorde la compréhension correcte des sens de ces versets. Par le fait qu'Allah leur facilite une personne de confiance qui leur enseigne le sens correct. Dieu fait qu'il y a une cause, quelqu'un qui va t'enseigner. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et la sagesse des versets non explicites, c'est que Allah éprouve ses esclaves pour que celui qui les interprète de la bonne façon obtienne une immense récompense. Et ceci est conforme à sa parole Ta'ala, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Ce qui signifie, Allah égare par le Coran beaucoup de gens et guide par le Coran beaucoup de gens. Voilà. C'est une réponse à ceux qui se poseraient cette question. Surat Al-Baqarah, ayah 26. Ainsi, ceux dont Allah a voulu qu'ils soient guidés par le Coran seront bien guidés. Le Coran n'est donc pas une cause de bonne guidée pour la totalité des gens. Ces versets sont à l'exemple d'autres miracles du prophète. Certains les ont vus, y ont cru, et d'autres les ont vus, mais ont refusé de la foi et sont égarés. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Al-Qur'anu huddatun laka aw alayk. Le Coran est soit une preuve en ta faveur, soit une preuve contre toi. Rapporté par Muslim. Ainsi, si quelqu'un donne une mauvaise interprétation des versets du Coran, cela se retournera contre lui. Et Allah dit au sujet du Coran, وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Et ceci, la révélation, est une langue arabe claire. On comprend de cette ayah qu'une des bases essentielles pour la bonne compréhension du Coran, c'est bien sûr la connaissance de la langue arabe. Donc, mais ça ne suffit pas tout seul. Il y a d'autres règles, bien sûr. En effet, sans la maîtrise de cette langue, il n'est pas possible à la personne de connaître et de comprendre tous les sens valables du point de vue de la langue pour les expressions qui ont été mentionnées dans la révélation. Donc nous allons donc à travers ce cours mentionner un certain nombre de textes qui sont sujets à interprétation et en donner le sens correct du point de vue de la langue arabe et du point de vue de la loi. Nous nous référons aux explications données par les savants spécialistes de l'exégèse. Nous parlerons dans un premier temps des preuves du Coran indiquant qu'il existe des versets explicites et des versets non explicites. ainsi que les preuves du hadith concernant leur interprétation à Ta'wil. Donc on l'a vu, donc le verset, preuve du Coran sur l'existence de versets explicites et de versets non explicites. Allah Ta'ala dit: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Qui signifie: c'est lui qui t'a fait descendre, qui a fait descendre sur toi le livre, qui comporte des versets explicites, muhkama, qui sont la base du livre, qui constituent la majeure partie des versets du Coran, la plupart donc sont muhkam, explicites, et d'autres versets qui sont non explicites, mutashabiha. Donc muhkamah, c'est pour le singulier, mutashabiha. Donc dans le verset, bien sûr, il y a le pluriel. Muhkamatun et mutashabihatun, c'est le pluriel. Inch'Allah, on fera dans le cours de la langue arabe les détails sur le pluriel, le singulier. Donc les ayats explicites muhkamah sont celles qui n'admettent qu'un seul sens du point de vue de la langue arabe. Ou autre définition, ceux dont le sens qui est visé a été clairement connu. Comme dans le cas où tous les compagnons se sont réunis sur une même explication. Ces versets ont été appelés Ummul Kitab, c'est-à-dire la base du livre. Car c'est à partir de ces versets qu'on se réfère pour l'explication des versets non explicites. Ils ont été appelés par Allah Ummul Kitab. Hunna Ummul Kitab. Donc c'est un verset. Les ayats non explicites, mutashabiha, sont celles qui peuvent admettre du point de vue de la langue arabe plusieurs sens. Elles nécessitent donc de considérer leur sens ou leur explication ou interprétation en fonction de la concordance avec les versets explicites, qui eux n'admettent qu'un seul sens. Car les interpréter dans un sens qui contredirait les versets explicites amènerait alors une contradiction dans les textes, et ceci est impossible. C'est pas admis. Cette règle fondamentale extrêmement importante de l'exégèse, a été citée par Cheikh Fakhruddin Ar-Razi dans le livre Al-Mahsoul. Donc il a dit, donc on interprète, donc tous les savants ils disent on interprète que s'il y a une preuve catégorique donc selon la raison ou une preuve confirmée selon les textes. C'est pas l'extrémisme des wahhabis ou les gens qui les ont précédés de renier complètement l'interprétation, et c'est pas aussi le laxisme des mu'tazila qui eux ils interprètent alors qu'il ne faut pas interpréter. Un verset clair, ils vont l'interpréter. Les sunnites sont ils suivent le juste milieu. C'est pas l'extrémisme ni le laxisme. Il y a l'extrémisme de ceux qui renient complètement l'interprétation dans l'absolu, et il y a le laxisme de ceux qui, même un verset clair qui a un seul sens, ils vont l'interpréter pour donner des mauvaises explications. Ainsi, les savants spécialistes de l'exégèse ont indiqué qu'on ne donne un autre sens que le sens apparent pour les ayats mutashabiha que lorsqu'il y a une justification selon la loi, c'est-à-dire selon les textes de la charia, ou une justification selon la raison, car la croyance musulmane n'est pas en contradiction avec le jugement rationnel, et ça on l'a vu. Il faut revoir pour ceux qui n'ont pas vu ou réviser: la raison est témoin de la religion, ce n'est pas la base, c'est pas comme disent les mu'tazila, c'est pas la base. Mais la base c'est le Coran ou le Hadith, mais tout ce qui est dans le Coran ou le Hadith ne contredit pas la raison. Donc toute explication qui contredit la raison, elle est rejetée. Et on a vu le verset: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont dit: si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. C'est donc une preuve provenant d'un texte qui nous amène à nous détourner du sens apparent, ou bien une preuve selon la raison qui nous amène à nous détourner du sens apparent, comme on l'a expliqué. Et ce qui est logique en fait, c'est utilisé même dans le langage courant des gens. Donc, comme on l'a donné des exemples. Comme on dit, le roi, il a construit la ville. On sait bien que ce n'est pas le roi qui a fait le maçon tout seul. Et d'autres exemples aussi. Donc, là, il est cité Was'alil Qaryata. Mot à mot, demande au village. Mais le village, il ne parle pas. C'est-à-dire, demande aux gens du village. Comme dans les infos, on dit Pékin a menacé Washington. Mais le premier sens, il ne peut pas être retenu parce que c'est des villes. Donc les murs, la terre ne parlent pas. Ça veut dire, les gouverneurs de Pékin, ils ont menacé les gouverneurs à Washington. Donc c'est quelque chose qui est connu en fait, c'est pas difficile à comprendre. Et donc le Coran utilise la langue qui était parlée à l'époque du prophète. Donc c'était quelque chose d'accessible pour eux. Donc dans la suite du verset précédemment cité, Allah Ta'ala dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Qui signifie, quant à ceux qui ont leur cœur dévié, ils suivent ce qui n'en est pas explicite pour faire tomber les gens dans l'égarement et faire de mauvaises interprétations. Voilà, Dieu nous met en garde déjà. Allah a décrit dans la suite du verset l'état de ceux qui sont égarés, en s'attachant à donner aux versets non explicites des sens qui contredisent les versets explicites. Tel est le cas de ceux qui attribuent à Allah le corps, le mouvement, les organes, les changements d'humeur, tout ceci en raison du fait qu'ils ont interprété des versets non explicites par un sens qui n'est pas digne d'être attribué à Allah. Nous verrons par la suite, inshallah, plusieurs exemples appuyés par des preuves indiquant l'interprétation correcte de ces versets-là, que eux ils ont cités pour propager leur mauvaise croyance, en leur donnant un mauvais sens. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, en faisant référence au verset qu'on vient de citer, il dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Donc il dit à Aïcha, ce qui signifie, si vous voyez ceux qui suivent ce qui en est mutashabih, c'est-à-dire qui s'attache au sens apparent des versets non explicites, ce sont ceux-là que Allah a mentionné et qu'il a blâmé dans ce qui a été cité dans Surat Ali Imran, verset 7, qu'on vient de citer. Prenez garde à eux, il a dit. Fahdharuhum. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Dans la suite du verset 7 de Surat Ali Imran, Allah Ta'ala dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ce qui signifie, il ne sait son interprétation que Allah, ainsi que ceux qui sont versés dans la science. Ceux-là disent, nous avons foi en lui, tout est de la part de notre Seigneur. Donc ainsi, ceux qui sont été appelés ar-rasikhuna fil ilm, c'est-à-dire ceux qui sont versés dans la science, connaissent l'interprétation correcte des versets non explicites. Parmi ceux qui sont versés dans la science, il y a le compagnon du cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, que Allah l'agrée, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a interprété, son élève, il a interprété, Wajh, fa'inama tuwallu fa'thamma wajhullah, c'est-à-dire la qibla agréée par Allah. Il a expliqué le Bukhari aussi, le Wajh, dans d'autres versets, par la souveraineté de Dieu. Donc lui, Abdullah ibn Abbas, lui-même, il l'a dit, il est rapporté, il a dit, Ana min al-rasikhin fil ilm. C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui sont versés dans la science, c'est-à-dire qui peut interpréter. Donc nous verrons par la suite certaines des interprétations qu'il a données. Et le prophète lui a fait un doa, justement, et ce hadith est une preuve contre les extrémistes qui renient l'interprétation dans l'absolu. Donc on rappelle, les sunnites, ils suivent pas ceux qui renient complètement l'interprétation, ils suivent pas ceux qui interprètent partout, même où il faut pas interpréter, à savoir les Mu'tazila. Donc les sunnites sont le juste milieu, ils interprètent selon des règles. Si le sens apparent contredit les autres versets explicites, ou si ça contredit la raison, il faut nécessairement interpréter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une invocation en faveur d'Ibn Abbas pour que Allah lui accorde la science de l'interprétation à Ta'wil par sa parole Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab, qui signifie oh Allah, enseigne-lui la sagesse et l'interprétation du livre. Hadith rapporté par al-Bukhari, Ibn Majah et le Hafiz Ibn al-Jawzi. Donc, c'est des savants sunnites qui ont rapporté ce hadith-là. Donc, pour faire une comparaison du niveau de compréhension dans la langue arabe de la part des assimilateurs, ceux qui font ressembler Allah à ses créatures, leur niveau ressemble au niveau de compréhension dans la langue française d'une personne qui, après avoir entendu les expressions suivantes, les comprendrait uniquement dans le sens apparent en rejetant tout autre sens. Voyez le résultat. Parmi les expressions que nous pouvons citer, donc en français, il y a jeter un œil, qui signifie surveiller ou protéger, ou l'expression avoir le dessus sur son adversaire, qui signifie vaincre son adversaire, ou l'expression il a la main mise sur les décisions de ses dirigeants, qui signifie qu'il a influencé et contrôlé les décisions de ses dirigeants. Ou encore l'expression prêter l'oreille, qui signifie écouter avec attention. Enfin l'expression je garde cet enfant sous mon aile, qui signifie je garde cet enfant sous ma protection et mon soutien. Imaginez maintenant donc ce que comprendrait une personne qui ne retiendrait que le sens apparent de ces expressions. Eh bien, malheureusement, c'est ce que font ces assimilateurs ignorants de la langue arabe lorsqu'ils prétendent que Allah aurait des mains, un visage, des pieds qui seraient au-dessus de ces créatures physiquement dans la direction du haut et qu'ils seraient à la fois installés sur un trône et en même temps continuellement en mouvement entre le trône et le ciel. Ce sont ces croyances-là que les égarés anthropomorphistes propagent de nos jours. D'ailleurs, parmi eux, il n'y a aucun linguiste. Dans le temps, à travers le temps, il n'y a eu aucun linguiste parmi ces gens qui assimilent Dieu à ces créatures. Les grands spécialistes de la langue, Zajjaj, Al-Fayoumi, Fayrouz, Abadi, tous c'est des sunnites. Ibn Manzour dans l'Islam al-Arab, etc. Ils font même de l'interprétation dans leur dictionnaire, ces grands savants de la langue. Donc la plupart des textes de la révélation du Coran et du Hadith sont des textes explicites. Nous allons citer les principaux versets explicites qui concernent la croyance au sujet de Allah. Allah Ta'ala dit « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ » qui signifie « n'attribuez pas d'équivalent ou de semblable à Allah » Surat An-Nahl. Les savants spécialistes des fondements de la croyance ont dit que la plus explicite des ayats du Coran au sujet de la non-ressemblance absolue entre Allah et ses créatures, c'est le verset 11 de Surat Ash-Shura. Donc, « Laysa kamithlihi shay » qui signifie « rien dans l'absolu n'a de ressemblance avec lui ». Ainsi, ces versets sont explicites dans la croyance sur le fait de ne pas attribuer de ressemblant à Allah, c'est-à-dire de ne pas lui faire ne pas le faire ressembler à ce qu'il a créé, de quelque point de vue que ce soit. C'est pour cela que nous sommes catégoriques à nier au sujet d'Allah toute ressemblance avec les corps, car les corps, qu'ils soient palpables ou impalpables, sont tous créés. Et Allah existe avant l'existence des créatures, avant l'existence des corps, il n'a donc aucune ressemblance avec les corps. Et il n'est pas attribué de leurs attributs. Dieu a créé les corps et leurs attributs. Mouvement, immobilité, contact, séparation, couleur, odeur, etc. Dieu est exempt de cela. Allah Ta'ala dit « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » qui signifie « il ne cerne pas sa réalité » Surat Taha, ayat 110. Ce verset nous fait comprendre que notre connaissance au sujet de Allah n'est pas par notre imagination, mais notre raison, elle, confirme bien son existence et confirme bien également les attributs qui lui sont obligatoires, comme la science de toute chose, la toute puissance, la volonté ou la non-ressemblance avec ce qui entre en existence. Ainsi, tout verset ou toute parole prophétique dont le sens apparent pourrait contredire les versets précédemment mentionnés nécessiteront une interprétation, car il n'y a pas de contradiction dans le Coran ou le Hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est vers la fin. Donc le Mufassir spécialiste de l'exégèse du Coran, Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a expliqué cette règle importante dans son livre Al-Burhan ou Al-Mu'ayyad. lorsqu'il a dit Sunu aqaidakum min at-tamassuk bi dhahir ma tashabaha min al-kitab wa as-sunnah fa inna dhalika min usul al-kufr, qui signifie préservez-vous vos croyances de l'attachement au sens apparent de ce qui n'est pas explicite parmi les expressions du livre, du Coran et de la Sunna, car c'est une des sources de mécréance. Il faut pas, il a dit, vous attacher au sens apparent de ce qui n'est pas explicite parmi les textes du Coran et du Hadith, car c'est une des sources de mécréance. Nous allons donc maintenant mentionner certains textes non explicites en donnant le sens qui convient de retenir et le sens qu'il est impossible d'attribuer à Allah. Donc voilà, on a vu une partie comme كُلُّ شَيْءٍ هَلِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Al-Bukhari, il a dit ici, وَجْهُ اللَّهِ, ça veut dire souveraineté de Dieu, toute chose sera anéantie sauf la souveraineté de Dieu. Il y a d'autres interprétations qui peuvent être acceptées, comme Sufyan al-Thawri, il a dit إِلَّا وَجْهَهُ, c'est-à-dire إِلَّا مَا أُرِيدَ بِوَجْهُ اللَّهِ, c'est-à-dire celle qu'on a faite لِوَجْهِ اللَّهِ, c'est-à-dire les choses, les hasanat, donc c'est-à-dire qu'on a fait par recherche de l'agrément de Dieu, ceux-là resteront dans l'au-delà. Il a expliqué une autre manière, mais qui a accepté parce que c'est conforme à la langue arabe et ça ne contredit pas les versets explicites et ça a un sens digne de Dieu qui ne contredit pas la raison. Il ne contredit pas la langue en son sens donc de Dieu aux créatures. Donc on verra les détails, Inch'Allah. Et ça permet de réviser, et la règle, toute personne qui attribue à Dieu la forme, la quantité et la localisation, même si elle a été induite en erreur par des fausses traductions, donc que les gens y ramènent, donc de l'arabie qui est contrôlée par la secte wahhabite, ou sur internet, donc les gens ils se copient ou collent, l'erreur se fait donc à les copier-coller des milliers de fois. Et les gens ils croient que voilà, il y a beaucoup de sites qui disent la même chose, mais en fait il y a la première erreur qui a été copiée 100 fois ou plus. Donc quiconque attribue à Dieu la forme, la quantité et la localisation, il doit délaisser cette mauvaise croyance et attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu en délaissant la mauvaise croyance. C'est ce qui le fait revenir à l'islam. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين بارك الله فيكم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين